Aujourd'hui, nous allons parler recrutement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau Damien Lapré. Damien Lapré, c'est le fondateur et le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Edera DX et qui est une start-up qui déploie une technologie appelée la biopsie liquide pour la détection des cancers. Damien était déjà venu nous voir puisqu'il avait accepté de témoigner à propos de la méthode RDE, recruteur d'élite, qui est notre méthode chez Outils du Manager pour recruter. Et il a voulu revenir pour nous expliquer comment s'étaient passés ses recrutements et comment son entreprise avait évolué. Parce que entre la fois dernière, qui était novembre 2021, et maintenant, il y a eu quelques évolutions. J'en ai profité aussi pour créer une suite de mails sur le recrutement que j'ai appelé « Recruter sans te tromper ». Si tu veux recevoir ces mails, il suffit que tu suives le lien en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Damien Lapré.
Bonjour Damien.
Salut Cédric.
Tu vas bien?
Impeccable.
Donc c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast.
Ouais.
Je me souviens plus, mais quand c'était exactement, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais vraiment en lancement et tu avais prévu, tu avais fait une campagne de recrutement massif, ouais. Tu avais commencé une campagne de recrutement massif.
Ouais.
Et tu avais utilisé pour ça notre outil recruteur d'élite et j'avais beaucoup apprécié ton témoignage. Et là, tu nous as sollicité en disant « Tiens, bah, moi, je serais prêt à faire une mise à jour de ce que j'ai dit la dernière fois. » Et je trouve ça vachement intéressant qu'on en reparle comme ça plusieurs mois après. Mais peut-être pour débuter, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que très rapidement, tu pourrais nous rappeler qui tu es?
Ouais.
Et puis, on parle évidemment de ton entreprise. Et puis ensuite, on parlera du contexte, parce qu'il a quand même un peu évolué depuis le dernier podcast. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, qui est le recrutement et le management.
Avec plaisir, avec plaisir. Bah, rapidement sur moi, je suis un Français expatrié. Ça fait maintenant 17 ans que j'ai quitté la France. Je suis passé un peu par l'Allemagne, l'Angleterre. Puis maintenant, je me suis installé à Lausanne, sur les bords du Léman, depuis une dizaine d'années. J'ai commencé comme chercheur. J'ai commencé dans la neuroscience. J'ai un doctorat en neuroscience. Ensuite, j'ai travaillé pour l'université d'Oxford, pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et puis, comme beaucoup de gens dans l'académie, des fois, on fait un changement dans sa carrière. Et j'ai commencé comme commercial dans une compagnie locale. J'ai grandi et j'ai pris très rapidement des postes de management. Il faut savoir que j'avais un peu managé avant, mais c'est du management un peu différent. J'ai fait du management sportif puisque j'étais coach d'aviron. Et je pense que c'était un peu l'expérience la plus difficile que j'ai eue puisque je coachais des jeunes filles de 12-13 ans. Donc, j'en avais à peu près une trentaine. À côté de ça, le management d'entreprise, c'est assez simple. Et puis j'ai grandi dans ma dernière compagnie que j'ai quittée en 2021. Et puis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Edera DX, qui est basée sur Lausanne, avec un collaborateur qui est basé sur Helsinki, en Finlande, et puis quelqu'un qui nous a rejoint qui est à Munich. Et donc, la compagnie a commencé en juin 2021. Et puis, c'est un petit peu là-dessus qu'on a discuté la dernière fois. C'est une expansion qui était censée être très, très rapide, avec un contexte économique qui était particulier. Et puis, boum, badaboum, le contexte économique a changé. Et donc, ouais. Il a fallu changer un certain nombre de choses. Voilà.
OK. Peut-être avant justement qu'on parle du contexte, on va aller vite parce que tout le monde le connaît, le contexte. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où en est l'entreprise aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je me souviens jamais exactement du chiffre, mais je crois qu'on est 18, voire 19 employés. Donc deux sites, un à Lausanne, un à Helsinki, et puis des gens un petit peu dispersés. On a des gens en France et en Allemagne. Et on a levé, c'était il y a quoi, 2-3 mois, 14 millions d'euros. Donc ce qu'on appelle un site, merci. On fait partie, on va dire, sans vouloir se vanter, des compagnies dans le monde qui ont levé beaucoup d'argent. Maintenant, il faut en faire quelque chose de correct. Lever de l'argent, ça c'est une chose. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Et notamment, avec les bonnes personnes surtout, parce qu'au final, c'est un petit peu ça qui compte.
D'accord. Les perspectives là, les plus proches, c'est la commercialisation de votre premier produit.
Alors, la commercialisation, la dernière fois que j'ai discuté avec ta collaboratrice, on était en, en planification de lancement. Et puis ça a été lancé il y a 7 semaines. Donc, en plein dedans. Donc, vraiment une activité commerciale à fond. Des bons premiers retours, ce qui fait du bien parce que…
Ah, génial.
Bon, il y a beaucoup de compagnies, si tu me diras, dans la startup, il y en a beaucoup qui vont te dire, bon, au bout d'un an, être déjà en commercialisation, c'est très rapide. Mais bon, quand on a l'habitude de vendre, c'est long quand même, un an. Donc là, ça fait du bien. Toute l'équipe est dedans. Et donc là, c'est fun. C'est fun.
Bah, bravo pour ça déjà.
Merci, merci Cédric.
Donc, tu disais le contexte a changé. Est-ce que tu peux… Alors, évidemment, on connaît un contexte qui a changé. On a une crise économique, mais je dirais que ça, c'est devenu quelque chose de régulier, de permanent. On est quasiment en permanence en crise économique. Évidemment, il y a la guerre en Ukraine. Et puis, tu disais que ça a engendré une modification au niveau du fonctionnement des investisseurs. Et en particulier, ce que tu me disais, peut-être, je te laisserai parler des conséquences, mais pour aller vite, ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils sont plus regardants sur la partie revenu. Bon, ce qui paraît un peu logique hein, quand on est soi-même chef d'entreprise. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence directe sur ton business ?
Alors peut-être parce que beaucoup de gens qui t'écoutent sont aussi de l'entrepreneuriat, mais peut-être pas forcément start-up. Donc, ouais. Le milieu de la start-up est un petit peu particulier et ça va peut-être choquer un petit peu les entrepreneurs qui ont vraiment construit quelque chose avec une idée de profit en tête, ce qui est assez logique, était un peu à la base de la construction d'une compagnie. Dans le milieu de la start-up, sur les 10 dernières années, si tu veux, ça a été un peu… n'importe quoi, c'est-à-dire que le Far West, en gros, beaucoup, beaucoup d'argent, très peu de ce qu'on appelle la due diligence, donc vraiment de compagnies ou d'investisseurs qui vont regarder vraiment dans le détail le plan d'évolution des compagnies. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent que, en gros, on va au casino, on met de l'argent sur les compagnies, puis il y en a une ou deux qui font beaucoup d'argent, qui récupèrent, et donc ça marche.
Un petit peu comme quand on fait un placement en bourse ou quand on achète de l'art ou des choses, on se dit, s'il y en a un qui décolle, de toute façon, ça compensera les pertes des autres.
Et c'est exactement ça.
Voilà,
c'est
exactement après, ça. À niveau humain et niveau entreprise, ça peut être discutable.
Ben, c'est discutable, surtout que avec la bascule qui s'est passée, c'est-à-dire que toutes ces compagnies qui ont été fondées sur des fondations assez faibles, assez fragiles, ben, au moment où il n'y a plus d'argent, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'argent s'arrête, et les investisseurs sont beaucoup plus regardants, mais c'est beaucoup de compagnies qui tombent. C'est-à-dire que là, on a vraiment on a pas mal de drames, notamment dans notre secteur, hein, le milieu de la santé, avec beaucoup de compagnies qui désembauchent, qui ferment pour certaines, à cause de choses qui ont été mal faites. Hein. On parle de compagnies quand même, je ne sais pas, pour donner un ordre de grandeur, on a des compagnies qui dépensent 100 à 150 millions par an pour générer 50 millions de revenus. Voilà, il y a un problème quelque part. Et donc ça, ce modèle-là qui existait quand Edera a été créé, n'existe plus. C'est-à-dire que du jour au lendemain, cet argent qui était présent n'était plus là. Et c'est vrai que dès le départ, on va dire, on a créé la compagnie avec l'idée de profitabilité. Ce n'était pas du tout de rentrer dans ce modèle de free money. Mais d'un seul coup, il y a beaucoup plus de regard qui se fait sur les dépenses et notamment sur ce qu'on appelle le headcount, donc le nombre d'employés, qui est vraiment un facteur important parce qu'on va regarder à quel point la compagnie est efficace à générer du revenu avec peu d'employés. Et donc, c'est vrai que les plans de départ dont on avait discuté la dernière fois qu'on s'est vu, c'était une expansion beaucoup plus rapide. Hein, l'équipe de vente devait faire, aujourd'hui, on devrait pratiquement être une quarantaine, une cinquantaine dans l'équipe de vente. Aujourd'hui, on est une dizaine, ce qui est beaucoup pour une petite startup. Mais ce qui fait que les choses sont vraiment différentes et je suis heureux d'avoir utilisé Recruteur d'élite parce que ça m'a justement permis de trouver des talents qui ont pu s'adapter. Et ça c'est critique.
D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, si je résume, ton entreprise, en fait, finalement, elle a été obligée de s'adapter. Tu as changé de tactique, tu as vu tes plans de recrutement à la baisse et finalement, tu vas te retrouver avec moins de salariés. Mais ce que tu dis, c'est que les salariés que tu as recrutés ont été capables d'entendre le changement de stratégie, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà recrutés quand tu as fait ta stratégie ou tu as changé le profil des personnes recrutées parce que tu changeais de stratégie.
Alors, il y a eu un peu des deux. On va dire, il y a eu une vague de personnes qui sont venues avant le changement de stratégie. Et après, on pourra parler des talents, justement, de la recherche des talents, qui n'est pas quelque chose de simple. Mais une stratégie qui s'est faite au fur et à mesure, c'est-à-dire qui a évolué alors que les employés étaient déjà là, pour la plupart, en tout cas pour une partie. Et donc, il a fallu, un, que ces gens-là s'adaptent. Ouais. Et donc, c'était important d'avoir trouvé des gens qui aient cette capacité de s'adapter. Et ça, je trouve que c'est probablement l'aspect le plus difficile à détecter en entretien, la capacité d'adapter. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut vraiment trouver assez facilement, hein, des fits. Mais la capacité de s'adapter, ce n'est pas facile, surtout dans des milieux de start-up qui évoluent très, très vite. C'est-à-dire, on change de direction assez rapidement. Et en fait, on se rend compte que quand on sélectionne bien les gens, on sait de toute façon qu'il y a un palier qu'ils ne pourront pas atteindre. C'est-à-dire que la plupart des employés vont réussir à faire un certain nombre de changements jusqu'à, donc ça peut durer, hein, 4, 5, 10 ans, mais il y a un moment donné, on peut plus aller au-dessus, il faut changer. Et ça, c'est naturel, mais il faut réussir à trouver ces gens-là qui vont être capables de passer 1, 2, 3, 4 paliers. Et ça, c'est pas facile. Et c'est vrai que Recruteur d'élite m'a en tout cas permis, en tout cas de beaucoup plus structurer, on en avait parlé la dernière fois, hein, beaucoup moins sur cet émotionnel de dire « Ah, je le sens bien ». Ouais, super, mais en règle générale, ça te pète à la figure.
Ouais. Et il y a un autre truc, tiens, que ça évoque ce que tu viens de dire. Je vais le dire parce que on parlera peut-être de management après, mais un truc auquel il faut être très, très vigilant en management, c'est de ne pas amener son employé, son collaborateur, je dirais, à la limite de sa compétence. Alors, on dit un seuil d'incompétence, après ça se discute parce que non, on peut se former, oui, on peut toujours évoluer, etc. Mais vraiment quelque chose qui est très, très difficile à rattraper en management, c'est quand tu as mis quelqu'un à un poste où, en fait, finalement, il n'arrivera pas. Et d'ailleurs, j'avais un ami avec lequel je discute toujours beaucoup qui me disait, une fois que tu as tapé le plafond, tu as une grosse bosse et c'est très difficile de continuer à travailler. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, dans ce que tu me dis, je vois deux choses. Effectivement, il y a le recrutement, mais il y a aussi l'organisation de ton management. C'est-à-dire que tu vas quand même devoir produire des résultats avec quand même moins de personnes que tu avais prévu au départ. Donc, je suppose qu'effectivement, il faut recruter les bonnes personnes. Pour moi, le recrutement, c'est la base du management. C'est ce que dit Jim Collins qui dit faites monter les bonnes personnes dans le bus. C'est beaucoup plus facile de faire du bon management quand on a fait un bon recrutement. Ça, c'est vraiment la chose de base. Mais ensuite, il faut aussi avoir un système de recrutement qui soit satisfaisant pour les personnes que tu as embauchées. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par un update sur la méthode RDE, recruteur d'élite, depuis le podcast qu'on avait enregistré. Donc, ça y est, j'ai retrouvé la date. C'était en novembre 2021. Et peut-être faire un bilan avec toi, déjà sur le résultat des embauches, puis peut-être que tu nous dises un petit peu, d'après toi, en résumant très fort, parce qu'évidemment, on va pas détailler complètement la méthode, mais en résumant très fort, quelles sont pour toi les clés, c'est-à-dire ce qui t'a vraiment parlé dans les clés d'un recrutement réussi, les succès que tu as eus, puis les erreurs que tu as eues, parce que c'est toujours intéressant de faire un recul par rapport aux erreurs que tu as pu faire. Ouais. Donc, premièrement, je dirais les clés d'un recrutement réussi. D'après Damien Laprès, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les clés d'un recrutement réussi, alors il y a eu des petits changements par rapport à la façon dont on recrutait à l'époque. Et le changement principal, si tu veux, c'est d'impliquer plus de personnes dans ce recrutement et d'impliquer aussi plus le candidat. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était sur une phase, on va dire, il y avait trois phases. La phase revue de curriculum. Donc celle-là, vraiment, moi j'adore hein, cette chronologie, ça c'est magique, hein, il y a un nombre de CV qui ne passent pas ça, ou alors qui permet d'ouvrir un certain nombre de questions, de questionnements. Alors il y a des candidats qui ont une bonne réponse, qui peuvent expliquer un parcours, ça et c'est très bien, et ceux-là, il faut les écouter. Mais le nombre de candidats là qui se plantent, ne serait-ce que là-dessus, Et c'est vrai que ne serait-ce que de l'avoir dessiné, de voir visuellement ce qui s'est passé dans une carrière, ça permet vraiment de faire un tri.
C'est ce qu'on appelle
la première phase.
La timeline, c'est-à-dire vraiment une méthode visuelle pour. Parce qu'un CV, après, il y a des gens qui sont plus visuels que d'autres, mais effectivement, avoir une timeline, c'est très, très parlant. Et ça permet d'éviter l'effet. Ah, cette expérience-là m'intéresse vachement. Et du coup, on a l'impression qu'elle est très, très importante en termes de durée dans la carrière du candidat, alors qu'en fait, elle est toute petite. Mais on a ce biais de dire, ah, ça m'intéresse, donc c'est important. Ben non, combien de temps il a passé là, combien de temps il a passé là, etc. Effectivement.
Ouais. Ah ouais, non, cette timeline, elle est hyper importante et vraiment, c'est la base de la discussion. Donc, la timeline. La deuxième partie, c'est les red flags qui ont été identifiés pour les candidats qui sont intéressants, c'est d'avoir un premier call qui est toujours un petit peu frustrant pour le candidat parce que ce premier call, c'est le call où il n'y a que moi ou la personne qui va recruter qui parle, en tout cas qui pose des questions. C'est-à-dire qu'on pose des questions et le candidat doit répondre. On n'est pas à l'étape informative. C'est-à-dire que, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je partageais déjà beaucoup plus à ce niveau-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que, un, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Et ça, c'est intéressant. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions. Alors que la règle, elle est très simple au départ. C'est, bon, ben voilà, il y a 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, je vais poser des questions. Je souhaite avoir des réponses. Et ensuite, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on passe à l'étape suivante, on va passer 2 heures, je vais passer 45 minutes à tout vous raconter, à répondre à toutes vos questions.
Hyper important. C'est-à-dire le filtre, et en plus, c'est extrêmement important pour toi en tant que recruteur, ça t'évite de passer du temps avec des candidats finalement qui ne sont pas intéressants et de passer beaucoup de temps avec les candidats qui seront peut-être intéressants. Mais c'est dur, je suis d'accord avec toi. Quand on rencontre quelqu'un, on a envie de le laisser parler, on a envie de l'écouter. Mais non, la première étape, c'est vraiment j'élimine un maximum.
Oui, c'est alors surtout dans une fonction commerciale, je dirais que c'est important parce que il y a quand même une partie de règles qu'il faut mettre en place et donc être capable de suivre ces règles. Je pense qu'on pourra en rediscuter tout à l'heure. Je pense que ça me fait penser un peu à ces talents, ce problème de talent qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a des gens qui sont de plus en plus demandants. C'est-à-dire que, effectivement, la relation a été inversée. Il y a beaucoup plus de pouvoir côté de l'employé que de l'employeur. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Il y a plein de choses qui ont été faites abusives côté employeur. De ce côté-là, c'est très bien. Mais la suite, être capable de suivre des règles, c'est-à-dire d'arriver sur un entretien et dire non, 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 là, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. On voit déjà que ça frustre un certain nombre de personnes. Et déjà, pour moi, ça, c'est un filtre. C'est-à-dire que bon, bah, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si ces règles très simples ne peuvent pas être suivies.
Bien sûr. Surtout un commercial. Il va se retrouver devant des clients qui vont lui dire voilà, les règles, c'est ça. Après, à lui d'en faire ce qu'il peut pour faire sa mission quand même. Mais effectivement, il faut pouvoir comprendre qu'il y a des règles et qu'on peut pas dire non, non, mais les règles, je ne les suis pas.
Exactement. Et on est dans le milieu de la santé, Cédric. Donc, le milieu de la santé, tu es en face de professeurs de génétique, d'oncologie. Bon, c'est des gens qui ont quand même voilà, une stature hein, et qui ont effectivement pour certains des règles. Et il y a certains pays, alors en fonction des pays, c'est un petit peu différent, mais il y a des pays, si on ne respecte pas la règle, on le fait une fois et on ne remettra plus les pieds dans cet établissement. Donc, pour nous, c'est critique.
Et puis, il y a une autre chose que tu as dite qui me paraît important de souligner. C'est effectivement, on est dans un marché, clairement, hein, où l'équilibre des pouvoirs a changé en faveur du recruté et moins en faveur du recruteur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille baisser notre niveau d'exigence quand on recrute. Ça n'est pas une raison pour tout à coup dire, bon, c'est tout, on met la barre bas, tant pis, on n'a pas le choix, on embauche, surtout pas. Le coût d'un recrutement raté, peut-être tu en parleras après, mais c'est assez énorme. Hein. Je regardais justement, vous tapez sur Google, coût d'un recrutement raté, en général, c'est au moins 45 000 euros quand même.
Ouais,
donc,
ouais.
Ça fait réfléchir. Et sur des gros profils, c'est beaucoup plus que ça. Et ce qu'on ne compte pas là-dedans, c'est le gâchis, l'impact sur l'équipe, l'impact sur ton temps que tu as perdu, que tu vas perdre, parce qu'il faudra ensuite désembaucher la personne, voire la licencier si tu mets un peu de temps à réagir. Enfin, je veux dire, le coût d'un recrutement raté, c'est énorme, énorme, énorme en termes de gâchis. OK?
Ouais, c'est un très bon plan. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai écrit. J'ai pris quelques notes juste avant le call en disant deux, trois trucs que je pensais importants. Et c'est encore plus valable cette histoire de ne pas embaucher parce qu'on doit embaucher. C'est un peu souci, c'est qu'on a un besoin d'embauche, et tu l'as très bien dit, hein, et c'est un peu cette relation, quelqu'un cherche un boulot, moi je cherche à donner du boulot. Donc techniquement, déjà, le tango peut bien se passer dès le départ. Mais le souci, c'est que il y a une crise des talents, mais le problème, et alors ça, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que la masse de candidats devient de plus en plus médiocre. C'est-à-dire qu'on a moins de talents, mais ils sont pas, c'est pas qu'on en a moins, mais ils sont très forts, c'est qu'on en a moins, ils sont pas bons. Et par contre, le problème, c'est qu'on a cette tendance à dire, bon, ok, mais il me faut quelqu'un. Et ça, à la limite, c'est le truc le plus dramatique qu'on puisse faire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux dire, ok, je préfère peut-être regarder en interne, je crois que tu l'avais mentionné aussi sur
Bien
d'autres
sûr.
podcasts, hein, c'est de dire, est-ce que finalement, il n'y a pas des gens qui seraient heureux d'étendre leur portfolio en interne, c'est-à-dire d'avoir plus de responsabilités, des choses qui peuvent être partagées, et éventuellement chercher un autre profil, plutôt que se diriger vers en disant, ok, bon, c'est pas idéal, mais on va quand même y aller. Alors ça, faut pas faire ça.
Alors, très, 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 très important, effectivement. Dire il me faut quelqu'un, non, oui, il te faut quelqu'un, mais il faut quelqu'un d'un certain niveau. C'est-à-dire qu'en général, quand tu es dans un processus de recrutement et que tu as beaucoup de candidats, bon, de niveau faible ou inadapté, etc., tu vas avoir un biais qui va se mettre en place, c'est que finalement, ta manière de définir le poste et je dirais la qualité de la personne que tu attends, eh bien, elle va évoluer en fonction des gens que tu vas rencontrer. Plus tu vas rencontrer de gens qui sont pas terribles, plus inconsciemment tu vas baisser la barre. Et c'est vraiment le truc à pas faire. Il faut accepter qu'au bout d'un processus de recrutement, on n'est personne. Première chose. Là, c'est le truc le plus important à comprendre. L'autre chose dont tu parles, et on n'en avait pas parlé évidemment la dernière fois, puisque tu démarrais quasi de zéro, c'est que l'étape qu'on a dans la méthode recruteur d'élite, la première étape, ce n'est pas la définition du poste. La première étape, c'est une discussion, une conversation avec les personnes en place autour du poste. C'est-à-dire que ça démarre toujours par, bon, on a besoin de cette compétence, ou bien on est en limite de capacité, ou bien on n'a pas ça dans l'équipe, on se met ensemble, on en discute, il y a une méthode pour ça, évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment. Et c'est à l'issue de cette réflexion, déjà qu'on va déterminer si oui ou non on a besoin d'embaucher quelqu'un, parce que parfois on en arrive à la conclusion que la compétence est en interne et qu'en changeant l'organisation finalement ou en faisant une promotion, ça va pouvoir fonctionner. Première chose. Et si oui, eh bien le profil, il va être déterminé par cette discussion préalable qu'on a eue. Et très souvent, moi ce que j'observe, c'est que à l'issue de cette conversation, on décide de recruter quelqu'un qui est un petit peu moins, je dirais, qualifié ou moins rare que ce dont on pensait avoir besoin au départ, parce que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui s'est dit prêt à y aller. Et donc, c'est cette personne qui s'est dit prête à prendre le poste qu'on va remplacer, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà, je résume, je le dis très vite, mais c'est vraiment une étape ultra importante qui est plus importante encore que le lancement du recrutement.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est quand on commence à créer cette relation particulière avec son équipe proche, c'est que finalement, en tout cas, j'ai pu l'observer, à un moment donné, on n'a même plus besoin de le demander. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on va avoir les demandes qui viennent en disant, tiens, on a remarqué qu'il y a on a un petit problème ici. Il manque une compétence. Il s'avère que Pierre-Paul Jacques, il y en a un. Ben, finalement, dans son passé, tu as oublié, mais sur son CV, en fait, il a fait un peu de ça. Il aimerait bien pouvoir, il ou elle voudrait bien monter un peu en gamme. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est quand ça, finalement, on commence à avoir cette relation où on n'a pas cette relation top-down, hein, donc on a la hiérarchie qui va dire, bon, ok, j'ai pris une décision, on va faire les choses comme ça. Mais
Dans
c'est
mon
plus,
coin.
voilà, c'est exactement. C'est plus cette discussion de dire, ah bon, vous voyez comme ça, j'avais pas identifié effectivement qu'il y avait un gap, mais comment on va faire pour le combler? Et tout simplement. C'est ça qui devient fun dans le management. C'est quand on a ça, autrement,
Carrément, c'est le moment
c'est pas
intéressant
rigolo.
du management. Donc, ta première clé, comment on pourrait la définir? C'est avoir cette réflexion en amont du recrutement.
Par réflexion en amont, être vraiment, vraiment dans le détail. Je pense qu'il faut faut vraiment être dans le détail au niveau pour les candidats parce que, et tu l'avais très bien dit dans un podcast, ben, je crois que c'était sur Recruteur d'élite, hein, mais c'est parce que la première mission, c'est de protéger ceux qui sont déjà là. C'est pas d'amener quelqu'un de l'extérieur et d'abord, non, d'abord on a une équipe, cette équipe elle fonctionne, elle tourne, on va la protéger et on va faire en sorte d'apporter une pièce qui va aussi les faire grandir eux. Et c'est pas juste parce que bah tiens, il manque quelque chose, j'ai une pièce de puzzle. Non, non, il y a une dynamique complexe qui se fait. Moi, j'ai quatre personnes qui me rapportent et avec qui je suis très proche, on travaille beaucoup ensemble. Ces quatre-là, je ne peux pas me permettre d'apporter quelqu'un qui va mettre le bordel. C'est pas possible. Ça serait pas les respecter et ça serait dangereux aussi en termes de dynamique et de productivité. Donc, je pense que c'est avant tout, c'est de réfléchir à comment je ne perturbe pas, mais ça ne veut pas dire ne pas perturber. Peut-être pas perturber, c'est pas le bon mot, parce que des fois, moi, j'ai eu des embauches qui ont perturbé cette dynamique, mais positivement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus comme avant, ça. Et puis, hop, on trouve un nouveau rythme et ça devient très puissant. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de perturber, mais pas négativement.
Oui, je pense que le résumé de ça, c'est qu'il faut faire participer l'équipe au recrutement le
C'est ça.
plus en amont possible. Et en fait, c'est comme si tu commençais l'onboarding, mais sans le candidat pour l'instant. Et parfois, il n'y a même pas de candidat, c'est juste une transformation de l'équipe.
Tout à fait.
Et puis, la deuxième clé dont tu as parlé tout à l'heure dans l'introduction, c'est tu as parlé de la capacité d'adaptation des personnes en faisant en sorte que le job évolue tout le temps. Mais alors, la question, c'est comment tu fais? C'est quoi l'outil? Alors, je le connais, moi, l'outil, mais c'est quoi l'outil, en fait, pour mesurer que quelqu'un, effectivement, va être capable de s'adapter, etc., etc.
Ouais. Alors, je me souviens plus exactement dans toi ce que tu proposais. Après, nous, on a introduit quelque chose qui permet d'avoir un tout petit peu plus de fouillis dans tout ça. C'est introduire plus de personnes, c'est-à-dire dans ce processus. Et donc, le candidat, quand le candidat ou la candidate est invité ici dans nos bureaux, donc on fait toujours un entretien physique, cette personne va être en face de toute l'équipe. Donc, on a toute mon équipe, donc on a une dizaine de personnes. Et là, le candidat ou la candidate doit venir avec une présentation. Donc, on leur a donné du travail à la maison à faire. Et là, c'est open bar en termes de questions. Et effectivement, ben c'est des questions qui viennent en règle générale, les candidats ont plus l'habitude de voir leur manager. Donc, ben, ils ont un espèce de format qu'ils connaissent. Et donc, ils savent à peu près quel type de voilà, quelles réponses sont attendues et autres. On peut les perturber. C'est beaucoup plus perturbant quand on a maintenant d'autres postes qui viennent, c'est-à-dire des gens qui viennent d'autres départements et qui vont commencer à poser des questions qui sont en relation avec eux. Et là, on voit assez bien déjà des gens qui sont capables de prendre la distance, soit de dire bah, c'est intéressant, je ne sais pas. Voilà comment j'ai entendu qu'on pouvait faire. Ou alors, oui, j'en ai entendu pas. Ou je suis très intéressé, j'aimerais comprendre. Ou et ceux qui sont complètement paumés, c'est-à-dire qu'ils bah, n'ont pas l'habitude d'être questionnés. Et c'est ça, tu me demandais ce que j'ai un petit peu modifié. C'est vraiment l'introduction de ce travail à la maison des candidats et l'introduction de l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe participe à cette présentation et peut poser des
Alors,
questions.
je pensais en fait aux questions comportementales. Tu vois,
Oui, oui.
la partie justement pour pas se faire emmener par, on en parlait tout à l'heure, l'expérience du candidat, la manière avoir en
Bien
fait
sûr.
des questions qui vont chez lui essayer de détecter ce qui sera dans son passé, ce qu'il a fait déjà, ce qui sera utile pour l'entreprise qu'il va intégrer. Et quelquefois on est surpris. Quelquefois on lit un CV puis quand on commence avec les questions comportementales, en fait, on se rend compte qu'on s'est fait une fausse idée. Et c'est pas forcément volontaire de la part de la recrue. Hein. Quelquefois voilà, il explique son poste d'une certaine manière. Nous, on a une construction mentale qui se fait en se disant bah oui, donc ça veut dire. En fait, on fait beaucoup de conclusions de notre côté. Et quand on revient aux questions comportementales, on se rend compte qu'en fait, et c'est là où on est précis, bah, que c'était pas du tout ce qu'on croyait. Ou au contraire, ça conforte ce qu'on s'était imaginé, hein, ce qui est toujours intéressant.
Oui, et d'ailleurs, les questions comportementales qu'on utilise sont toujours les mêmes par poste. C'est-à-dire, c'est des questions comportementales différentes. Donc, pour un poste particulier, on va identifier qu'est-ce qu'on pense être important en termes de comportement. Donc, un commercial va avoir un set de questions comportementales particulières. Quelqu'un qui va être plutôt au niveau du support va avoir des questions différentes parce qu'on ne s'attend pas exactement à la même chose. Mais c'est important, en tout cas, d'avoir quelque chose d'homogène entre les candidats. Parce qu'autrement, si on commence à changer de question d'un candidat à l'autre,
c'est clair.
C'est très différent, c'est très difficile de jauger, hein, quelle est la personne qui va avoir le meilleur fit.
Tu perds ton référentiel, oui.
Exactement, exactement.
Et il y a un truc que tu avais dit aussi quand on avait préparé, que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est étudier les projets ratés du candidat, c'est-à-dire lui. Et ça, tu l'as mis dans la capacité d'adaptation. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce process-là?
Surtout pour un commercial, c'est très important, l'équipe commerciale, de comprendre là où on s'est planté. Est bien planté. Et j'ai déjà eu des candidats qui m'ont dit qu'ils ne se sont jamais plantés. Alors, déjà là, pour moi, c'est un gros red flag parce que ça veut dire soit qu'ils se moquent de moi, soit qu'ils ne sont pas conscients de s'être plantés, ou alors qu'ils n'ont vraiment rien tenté. Et là, s'ils n'ont rien tenté, dans le milieu de la start-up, ça ne marchera pas. Donc, cet aspect-là, d'être capable d'identifier quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai tenté. Ça peut être un projet, ça peut être un client. Par exemple, la plus grosse perte d'un client, voilà, oui, j'ai merdé. On a fait les choses comme ça. J'ai raté complètement. J'avais un candidat il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai complètement raté que notre sponsor avait changé. Du jour au lendemain, la personne est partie. C'était une autre personne et tout le projet s'est cassé la figure. Ok, ça arrive. Qu'est-ce que toi, tu en as retenu? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que après, tu as pu te relever là-dessus? Et ça, c'est plus intéressant, en tout cas, c'est plus informatif que les victoires. Parce que je trouve qu'il y a moins de remise en question, et c'est peut-être dommage, parce que justement, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Et d'ailleurs, je vais changer l'année prochaine sur le one-on-one, une de mes questions. Ça va être: quelle est ta victoire de la semaine? Parce que je pense qu'on n'apprend peut-être pas assez de ces victoires. C'est-à-dire qu'on les prend un peu comme... maintenant, c'est devenu un petit peu plus commun d'apprendre de ces défaillances. Alors que des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi j'ai gagné? Parce que finalement, ça s'est bien passé, d'accord, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier dans cette situation qui a fait que j'ai gagné? Et ça, on ne le fait peut-être pas assez. Mais je trouve, en tout cas, au niveau de l'entretien, c'est assez révélateur quand on passe sur la phase est-ce que tu as eu un échec, et est-ce que tu peux aller au travers? Ça, pour moi, c'est déjà un bon élément. Mais en tout cas, sur cette adaptabilité, et surtout au niveau de la startup, et j'insiste dessus parce que c'est vrai qu'on a des caps qui changent parfois de façon assez drastique. Mmh. Là, c'est assez difficile vraiment de trouver, surtout sur des postes jeunes, sur des postes plus évolués, plus entre guillemets plus seniors, on a peut-être plus une timeline longue qui permet de comprendre s'il y a cette possibilité-là. Mais sur des postes plus juniors, c'est difficile parce que c'est des gens qui arrivent et qui commencent pratiquement. Donc, jauger ça, c'est pas simple.
Oui, parce que tu as moins de références, en fait. Les questions comportementales, elles fonctionnent qu'on ait une timeline élevée ou pas, mais elles sont plus fournies en général quand tu as une timeline élevée. Tu as plus d'expérience, donc plus de choses, plus de détails à raconter. OK, donc ça, c'était... je dirais les clés. Ouais. Après, les succès, peut-être nous dire ce sur quoi tu as vraiment l'impression d'avoir réussi dans tes recrutements. Et puis après, évidemment, on regardera les erreurs et les problèmes.
Oui, s'il y en a eu, hein, ça c'est sûr.
Logique.
c'est logique.
C'est ce que je veux dire.
Mon plus grand succès, je pense, c'est d'avoir vraiment construit une équipe très, très solide. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait rentrer même des profils, et notamment une qui se reconnaîtra, qui pensait qu'elle ne serait pas capable de suivre le rythme. C'est-à-dire que, elle rentrait dans le truc, mais c'était beaucoup de questionnements, c'était est-ce que je vais pouvoir partir dans tous les sens, et puis que ça effectivement perturbait un peu la dynamique de l'équipe qui était à l'époque de 3, une quatrième qui arrive, et puis d'un seul coup à se dire Ah, la vache, et finalement, non seulement je le fais bien, mais en plus j'aime ça, quoi. C'est cool, c'est fun et c'est là où je m'éclate. Et ça, c'était rigolo parce qu'on avait un entretien comme ça en disant bah oui, c'est ça, je l'avais identifié effectivement pendant ton entretien que tu étais capable de le faire. Tu l'avais peut-être jamais expérimenté avant, mais tu étais tout à fait capable de le faire. Et c'est vrai que créer cette symbiose, ces quatre qui sont très différents, et je sais que tu vas discuter avec deux d'entre eux, ils sont très très différents.
C'est prévu
Voilà.
demain.
Voilà, donc ça va être assez rigolo, mais très différent, mais très complémentaire. Et je pense là où je suis le plus fier, mais c'est là et ça revient à la partie management. Mais c'est la plus dure pour moi en tout cas. C'est pas la confiance, c'est d'être capable de dire, ok, peut-être qu'ils savent plus que moi sur certains sujets. Et évidemment, je les ai embauchés pour ça, donc évidemment, ils le savent plus, mais c'est de l'accepter, c'est-à-dire que de temps en temps, de se dire, OK, bon, oui, j'ai sur certains domaines plus d'expérience, c'est vrai. Il y a des choses que je sais, parce que je l'ai vécu. Et finalement, d'être capable de dire, OK, j'écoute, même quand je ne suis pas de bonne humeur, j'écoute, en me disant qu'il y a peut-être quelque chose qui va en ressortir, et c'est de rentrer dans cette dynamique d'écoute un maximum. Qui finalement, je sais que tu l'as mentionné dans plein de podcasts et autres, c'est beaucoup plus simple de faire ça parce que finalement, ben, c'est pas toi qui tires la charrue, mais on est tous à pousser de la même façon. Donc c'est beaucoup moins épuisant pour le manager, mais je trouve que c'est cette partie qui est la plus difficile, c'est de dire de temps en temps, on a envie de dire, OK, bon, on va dans cette direction. Et puis là, on a deux personnes qui nous regardent, qui disent, ouais, mais je pense que cette direction, c'est pas la bonne, il faut mieux celle-là. Et là, tu as envie de dire, bon, écoute, hein, je connais, je sais faire, on va là. Et c'est à ce moment-là de se dire, OK, bon, alors explique-moi pourquoi tu penses que cette direction-là est la bonne, est-ce que les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là où d'un seul coup, il se passe quelque chose d'intéressant, où finalement, on ne va pas prendre ni l'une ni l'autre, mais on va prendre une troisième qui est beaucoup plus intéressante et qui va avoir beaucoup plus de retours. Et ça c'est vraiment là j'en suis assez fier, c'est vraiment d'avoir créé cette symbiose et cette capacité de gens qui viennent me voir et qui me disent, excuse-moi, mais la dernière idée que tu as eue, c'était complètement con, quoi. Mais avec tout le respect qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais sans hésiter à dire, là, je suis désolé, je pense que c'est pas la bonne idée, quoi. Et ça fait plaisir parce que quand on a atteint cette relation, c'est de se dire, OK, on est dans une relation professionnelle, on n'est pas des potes, on n'est certainement pas une famille. Ça, c'est un mot que je comprends pas qu'on puisse utiliser ça dans les compagnies. Non, pas une famille. Mais par contre, on peut être une équipe et on est une équipe, une équipe soudée. On va dans une direction et on décide de ces directions ensemble. Et ça, ouais, ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette.
Alors, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. La première chose qui m'intéresse, c'est que tu dis, et c'est vrai, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est il faut être à l'écoute. On sait que quand on est en recruté, on n'a pas la connaissance de tout, donc il faudra être capable d'écouter les autres et d'en faire, enfin, de les écouter d'abord, et puis en plus de discuter avec eux, etc. Et ça, en fait, c'est une intention. Et finalement, souvent, il y a un énorme écart entre ce qu'on voudrait faire ou ce qu'annonce le candidat en disant, bah oui, c'est évident, je ne peux pas tout savoir, et c'est vrai que c'est évident, et puis le comportemental. Et je reviens à mes questions comportementales, c'est vraiment important, à la fois au moment du recrutement et à la fois au moment du management, qu'on ne soit pas seulement sur les principes et qu'on soit vraiment sur les comportements. Donc, comment ça se traduit? Eh bien, on a un petit outil hein, qui est proposé dans la méthode qui s'appelle le Culture Match, où on va déterminer quelles sont les valeurs, soit de notre entreprise, si elles sont déjà existantes, si l'entreprise est déjà existante, soit les valeurs que l'on voudrait avoir dans notre entreprise, mais on ne va pas le faire du style, oui, nous on veut de l'honnêteté, on veut de l'échange, enfin, on veut que les gens soient humbles, patati patata, parce que ça, finalement, c'est ce que tout le monde dit. Et quelque part, ce que tout le monde écrit, et souvent l'expérience vécue par l'employé à l'intérieur de l'entreprise, ce n'est pas ça du tout. Et je dis souvent, moi, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. Donc, le travail qu'on va faire en amont, avant le recrutement, c'est justement partir des comportements qu'on apprécie dans l'entreprise et qui nous réussissent. Mais alors, si on crée une entreprise, on peut le prendre dans notre passé. Enfin, je veux dire, après, il y a plein de manières de le faire. Mais en tout cas, partir des comportements pour en déterminer les valeurs. Et une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus facile de créer les questions comportementales qui vont correspondre à ces valeurs parce qu'on saura exactement ce qu'on cherche dans nos questions auprès du collaborateur. Parce que c'est bien d'embaucher une compétence, mais si vous embauchez une compétence et qu'à côté, il n'y a pas les comportements attendus, ça ne va pas marcher, ce sera pire que tout. Et là, tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment avoir une clarté sur la culture qu'on veut créer et que cette culture, elle ne soit pas créée dans l'absolu et dans le vide, non seulement ça, mais qu'en plus, elle soit rattachée à des comportements. Sinon, vous aurez toujours en face de vous des gens qui sauront vous répondre, qui sauront vous dire « oui, oui, moi… » Alors, c'est le truc, les qualités, les défauts. Hein. Bon, donc, je te l'ai fait. Hein. C'est l'honnêteté, mais ça m'a joué des tours. Le perfectionnisme, ça, c'est mon gros défaut. Je suis quelqu'un qui est très, très perfectionniste. Voilà, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est cette façade-là, elle doit tomber pour pouvoir aller sur du comportemental. C'est une chose.
Attention, ce qui est important juste dans ce que tu dis, c'est là où probablement un certain nombre de personnes se plantent parce qu'ils prennent les valeurs qui sont écrites sur la porte. Ces valeurs-là, elles n'existent pas. Donc, soit ça a été bien fait, bien pensé, il y a des compagnies qui l'ont très bien fait, et effectivement, ça vient des employés, c'est-à-dire que c'est la culture qui s'est créée, on le voit très bien à partir d'une quinzaine d'employés, c'est là où ça commence, ces valeurs commencent à sortir. Et s'ils partent sur celles qui sont écrites, mais qui ne correspondent pas, alors là, ils sont mal barrés. Donc, effectivement, ce travail, il vient même pratiquement plus en amont, c'est-à-dire d'être sûr quelles sont les valeurs de cette compagnie, ou alors, on est dans une compagnie qui est énorme, bon, les valeurs de la compagnie, ce n'est pas forcément notre truc. Mais par contre, le département dans lequel on est, on sent qu'il y a des valeurs particulières. Et ça, on peut les faire ressortir. Mais c'est super important. Ouais.
Et les bonnes valeurs, c'est-à-dire que tu pars du comportement, en fait. Et tu regardes le comportement des employés en général. Donc, on a une méthode pour ça. Et puis, tu dis, ça, je veux, ça, je ne veux pas. Donc, c'est un choix. Et donc, ça veut dire que si tu retrouves dans les candidats que tu vas voir des valeurs que tu rejettes, ben voilà, c'est un red flag direct. Et ça peut se faire même avant de rencontrer la personne, quasiment.
Bien sûr.
La rencontrer en vrai ou en visio. Mmh. Et par contre, tu peux aussi avoir autre chose. Là, c'est le niveau suivant. C'est, je suis super content de ces valeurs-là que j'ai dans l'entreprise ou de ces comportements-là qui déterminent ces valeurs-là. Mais il me manque un peu plus de ça dans mon équipe. Et ça, c'est intéressant aussi. Mmh. C'est qu'à partir du moment où tu maîtrises cet outil du culture match, eh bien, tu peux aussi choisir de faire entrer dans l'équipe des gens qui vont renforcer ou développer des comportements et des valeurs qui aujourd'hui n'existent pas suffisamment. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est aussi important que la compétence des gens que tu embauches. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ensuite, une fois que tu as fait rentrer les bonnes personnes avec la bonne autonomie, les bonnes valeurs, etc., toi, tu peux prendre ton rôle. Et là, maintenant, on est dans le management, on n'est plus dans le recrutement. Tu peux prendre ton rôle de coach parce que tu as recruté des gens qui sont en capacité non seulement d'être autonomes tout seul, mais d'être autonomes en équipe. Donc, c'est quand même vachement intéressant.
Intéressant, puis c'est excitant. C'est vraiment… Ça change la perception chiante du management où c'est l'impression qu'il faut avoir un fouet et puis il faut. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, je me lève
ou décider de tout ou ne jamais être surpris. Moi, ce que je dis souvent, ce que je préfère dans le management, alors que pourtant, j'essaye. J'ai une approche du management qui est assez structurée, etc., etc. J'adore être surpris par mes collaborateurs. Être surpris en bien. Hein.
Oui.
mais c'est ça le truc, tu te dis waouh, j'aurais pas pensé. Quoi. Ouais. Et ils ont fait ce truc-là. Pour moi, c'est le plus grand plaisir du manager.
Ouais,
ok. Est-ce que sur les succès, on a dit tout ce que tu avais
oui, oui. C'est vraiment ça. Après, le reste de la compagnie, on a les recrutements qui se sont faits. Je trouve effectivement il y a eu quelques erreurs, mais on a quand même créé quelque chose sur une petite compagnie qui reste quand même vraiment. On est petit. Hein. On a réussi à créer quelque chose d'assez exceptionnel avec une vitesse d'exécution et de communication qui est très forte. Mais qui demande, et ça, je pense que c'est valable pour toutes les compagnies, qui demande une grande attention, c'est-à-dire quotidienne, de faire attention, surtout que la communication reste fluide, reste. Et ça peut vite partir en javel. surtout avec les outils modernes, où là, on se retrouve avec… là. Et ça, je suis très fier de dire que mon inbox, en règle générale, elle est vide et je ne reçois pas beaucoup d'emails. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire
C'est
on
plutôt
a
bon
créé,
signe.
voilà, créé une communication qui est plutôt… alors, on a des outils de communication de chat, des choses comme ça, parce qu'il y a des trucs qui… Mais ces choses-là, donc, effectivement… Beaucoup de choses qui sont bien faites, mais il y a des choses
Alors,
qui sont moins bien faites.
ah voilà, maintenant qu'on a vu les clés du succès, le succès, qu'est-ce que tu… Bah, puisque tu veux recruter des gens qui savent tirer, je dirais, des leçons de leurs échecs, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, les problèmes que tu as rencontrés et dont tu voudrais nous parler par rapport, je dirais, au recrutement?
Alors, je crois, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, parce que j'avais déjà eu le cas la dernière fois, mais c'était. Alors, ce qui était rigolo, ça nous est arrivé plusieurs fois, mais ce qui a été récurrent, c'est qu'à chaque fois que j'ai dévié de la trajectoire qui avait été définie, c'est-à-dire, voilà comment on va faire avec le CV, voilà le type de questions qu'on va poser, voilà comment on va se faire l'entretien face à face.
Dès que tu es sorti du
Dès que je suis
processus
sorti de ce
RDE.
processus-là, je me suis planté et bien planté, c'est-à-dire que mais j'ai pris un raccourci à un moment donné, c'est-à-dire que je suis tombé un peu dans l'émotionnel en me disant ah mais ça tu dois connaître, bon c'est bon, on va pas passer là-dessus, t'es trop senior ou ouais voilà, avec un CV comme ça c'est bon, allez on passe directement à la partie séduction,
Ouais.
ouais tu sais la compagnie elle est chouette, on va faire ci, on va faire
Ouais.
ça, ça. Et là ben là c'est voilà, ça c'est pas bien passé.
Et alors, c'est arrivé beaucoup ou bien
Ça nous arrivait deux fois.
deux fois?
Et les deux fois, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux fois, et c'est moi, hein, donc je peux dire que c'est moi qui me suis planté, deux fois, je suis sorti effectivement du chemin qui avait été défini. Et donc là, c'était très facile à identifier. Il y a une troisième fois où une autre personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est plutôt vraiment cette capacité. Là, et c'est pour ça aussi qu'on a introduit plus de personnes dans l'entretien. Parce que là, on n'avait vraiment pas identifié ou peut-être pas bien qualifié la capacité à évoluer
Ouais.
dans la compagnie. Et ça. Voilà ça, et je pense que maintenant, avec plus de recul, et d'ailleurs on le voit avec c'est marrant avec l'ambiance hein, dans la salle quand le candidat présente, il y a cette ambiance, on a un peu tout le monde qui est intéressé, qui dit ah tiens, ok, ça veut pas dire qu'il faut se baser que là-dessus, mais on sent qu'il y a des questions, on sent qu'il y a… et puis il y a cette ambiance un peu tout le monde s'ennuie, et là c'est souvent un tout petit peu embêtant. Mais effectivement, sur ce profil-là, ça avait été plus une erreur de détecter la capacité de s'adapter à des changements, qu'ils soient petits ou grands. Hein. Là, c'était pas forcément. Et ça, c'est pas facile, surtout quand on recrute des gens qui viennent de grosses structures. Et on a des succès hein, avec des gens qui viennent de très grosses structures et qui s'adaptent parfaitement à une culture, une façon de faire qui est très différente. Mais c'est là où des fois ça coince et c'est pas toujours facile en tout cas sur des jeunes profils, c'est pas facile et là ouais, on s'était bien planté.
Et tu disais que c'était un problème d'alignement culturel pour les deux premiers cas où ça n'a pas marché. En fait, je te rejoins, c'est, tu sais, la première version de RDE, on n'avait pas introduit cet outil Culture Match. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que, de toute façon, dans les questions comportementales, pour moi, c'était implicite, que dans les questions comportementales, on allait se rendre compte de si la personne serait adaptée ou pas à la culture d'entreprise. Et finalement, on a fait un upgrade sur la formation RDE en mettant l'outil Culture Match parce que je me suis dit, mais non, moi peut-être je ne le dis pas assez dans la formation que oui, il y a la compétence, mais il y a aussi le comportemental qui détermine la culture. Et je n'ai pas pensé qu'effectivement, le recruteur lui-même, il fallait qu'il fasse d'abord ce petit travail de déterminer quelle est la culture de l'équipe pour pouvoir mieux insérer la personne dans l'équipe après. Et en plus, c'est ce phénomène quand même d'exigence des candidats, de pénurie, etc., renforce encore cette importance de la culture d'entreprise, d'être capable d'en parler de manière très concrète, parce que c'est ce que les candidats de valeur vont attendre.
Mais
OK.
oui, et puis surtout beaucoup de candidats qu'on voit qui font plus d'efforts. On a eu une époque où on avait Voilà, une candidature. Alors bon, il y a toujours des candidatures un peu légères, mais je trouvais qu'il y avait une certaine rigueur. Faire un effort au niveau du CV, faire un effort au niveau de sa présentation. Et là, on se retrouve avec des candidats qui j'ai l'impression que ben c'est un peu du speed dating. Et évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui le font très très bien, et c'est ceux-là qu'on peut identifier. Mais il y en a beaucoup 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 qui. Et donc, si on n'a pas un système en place qui est bien en place, qui nous permet de pas perdre de temps. Parce que c'est surtout ça, et tu l'as très bien dit, ce que tu veux, c'est passer beaucoup de temps avec les gens ben, sur lesquels voilà, ceux qui tu penses peuvent être un bon fit avec ta compagnie, ceux-là, tu veux passer du temps, tu veux discuter, et ne serait-ce que même si ça ne marche pas, c'est-à-dire que tu sors de l'entretien, tu dis, ben non, finalement, ça ne marche pas, mais t'en sors grandi, finalement, tu as appris des choses, tu as aussi passé le mot sur ta compagnie, c'est-à-dire que quelque part, ce que tu veux, c'est que bah, l'environnement reconnaisse ce que tu essayes de faire, ce que voilà, tu veux vraiment passer le mot. Et ça, c'est important parce que tu veux passer du temps. Mais ce que tu veux surtout, c'est ne pas passer de temps sur les choses qui sont pas bonnes. Et je voulais juste rajouter un truc par rapport au mismatch qui s'est passé dans les entretiens. Par contre, après, et je pense que c'est important, c'est-à-dire que parfois, effectivement, il peut y avoir comment dire, un manque d'alignement entre l'employé, enfin, entre la compagnie, la culture et l'employé. Par contre, c'est quand même possible de rattraper. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que il y a certains qui rattrapent et qui s'alignent, et après, c'est parti et c'est super. Et donc, c'est pas pour tout mettre uniquement, effectivement, parce qu'après, c'est peut-être un tout petit peu simple de dire, bah voilà, c'est bon, j'ai recruté. C'est parti, y a plus. Après, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et ça revient au one on, au un à un, quoi. C'est tous ces petits coups de volant que tu mets régulièrement. C'est-à-dire, hop, OK, comment je fais? Puis de temps en temps, effectivement, il y a peut-être un petit coup de violent, un petit peu plus violent pour, hop, pour réaligner. Mais ça ne veut pas dire que le travail, il s'arrête là. Et ça,
C'est
c'est
clair.
clair.
Il y aura quand même du management à faire, même si tu as très très bien recruté.
Il y a quand même un.
Mais ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. C'est que de toute façon, après, il faut être réaliste, le candidat idéal n'existe pas. Il faut qu'il soit le plus proche possible de ton idéal et que tu connaisses ton écart.
Et le manager
Ensuite,
idéal n'existe pas non plus, donc comme ça.
voilà, exactement. Et puis, il y a plein de facteurs, hein, on est quand même dans l'humain, donc qui vont intervenir. Mais c'est justement parce qu'il y a plein de facteurs qu'il faut être le plus rationnel possible. Et ensuite, le fait d'avoir travaillé en amont avec ton équipe, déterminé la culture, fait le recrutement en commun avec eux, etc., etc., c'est un acte de management vis-à-vis de ton équipe. C'est-à-dire que je vais exagérer, mais imaginons que ça ne mène pas à un recrutement parce que finalement le profil n'existe pas, etc. Tu auras quand même fait un acte de management avec ton équipe, tu auras montré ta confiance, tu auras déterminé les valeurs que tu recherches, etc. Et je dirais presque que le fait d'avoir clarifié ta culture d'entreprise, les comportements attendus, etc., ça va être utile dans ton management au quotidien. Parce que tu vas te. Moi, il y a un truc que je dis souvent, je dis, chaque année, prenez la liste de votre personnel et demandez-vous si vous réembaucheriez chaque personne et ce qui pourrait faire que vous auriez un doute. Ça ne veut pas dire que vous allez virer la personne, mais tiens,
Bien sûr.
qu'avec le recul, je n'ai pas vu et que j'aurais dû voir, etc. Et c'est là-dessus que vous allez travailler en management au niveau du feedback.
Ouais, puis je sais plus où est-ce que j'ai chopé ça, mais j'avais vu, c'était je ne me rappelle plus où c'était, je pense que c'était aux États-Unis, quelqu'un qui s'envoyait un email, effectivement, et je fais ça, c'est-à-dire que je m'envoie un petit rappel tous les 3 mois pour rappeler que finalement le job que j'avais n'existe plus. Que les choses ont évolué. Donc c'est toujours le même titre, c'est toujours le même salaire, c'est toujours les mêmes responsabilités, mais finalement la compagnie qui existait il y a 3 mois, bah, elle a évolué, que les équipes ont évolué. Et donc se remettre en question, se dire, attends, est-ce que je fais toujours les mêmes choses depuis 2 ans et ça ne peut pas fonctionner. Donc comment je fais pour faire en sorte que. Ça ne veut pas dire que tous les 3 mois, il faut changer tout, parce que ça, j'ai vu ça aussi.
Non,
Et là, c'est catastrophique, parce que plus personne ne sait s'y retrouver. Mais c'est aussi se dire, OK, est-ce que pendant ces 3 derniers mois, j'ai évolué aussi avec l'équipe, et peut-être que je ne l'ai pas fait. Et c'est peut-être le moment de se dire, attends, il faut peut-être que je fasse 2, 3 changements, parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
c'est un peu la question est-ce que je me réembaucherais moi-même, en fait?
Et
une si compagnie j'ai un comme doute, ça.
T'as une compagnie comme ça qui se fait. Je sais pas, c'est pas Spotify. Non, c'est pas Spotify. Et chaque année, en tout cas, tous les membres du management repasse par le processus d'embauche. Alors c'est un peu voilà, c'est l'américaine et tout, mais le principe est intéressant.
Finalement, quand tu fais les entretiens d'évaluation, c'est un petit peu ce que tu fais. Moi, c'est une autre formation, c'est pas RDE, mais c'est entretien de progrès, EDP, où finalement, oui, c'est pas comme si on faisait une embauche, mais réellement, on repart de ce qui a été fait. Enfin, on refait ce process qui ressemble très fort, en fait, finalement, à un recrutement, en étant plus soft. Il n'y a pas la phase sélection, etc. Mais quand même, il y a une discussion qui ressemble fort. Qu'est-ce que tu as prévu comme évolution dans la stratégie de l'entreprise à la lumière des apprentissages de cette dernière année, au niveau du recrutement et peut-être au niveau du développement?
Au niveau du recrutement, il y a quelque chose qu'on a observé, alors qui est particulier peut-être à notre industrie, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter des gens avec de l'expérience. Parce que, étant donné qu'on est dans une crise, la plupart des gens s'accrochent, et c'est normal, on peut le comprendre, à leur entreprise. Donc, c'est plus risqué de passer du côté d'une start-up. Et puis aussi, on a observé, parce qu'il y a une pénurie de talents, en tout cas au niveau des commerciaux, on a des territoires qui ont diminué, 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 diminué. C'est-à-dire que nous, on est une start-up. Et c'est vrai, quand on embauche quelqu'un, on dit, ben voilà, c'est pour s'occuper de la France, c'est pour s'occuper des Nordiques. Donc, c'est des territoires qui sont très grands. Autant il y a quelques années, ce n'était pas très compliqué à trouver. Autant maintenant, ça devient très compliqué parce qu'on a des candidats qui disent, moi, je veux bien m'occuper de Lille. OK, c'est cool, mais Lille, est-ce qu'il y a autour, c'est possible? Et donc, on se rend compte que ça va être difficile. Donc, il y a deux choses. C'est soit on reste dans notre modèle, on se dit, non, 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 moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, mais ils n'existent pas, donc ce n'est pas la peine. Soit on s'assied, on discute et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Personnellement, je pense qu'on va probablement venir vers des candidats plus juniors, c'est-à-dire que, mais avec un effort plus important en interne, d'onboarding, c'est-à-dire des gens qui vont accepter de dire, voilà, c'est une de mes premières expériences. J'ai pas peur de partir sur du grand, j'ai pas peur du milieu de la start-up et des risques qui viennent avec, et je vais m'en servir. Et je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on fait peut-être pas assez dans les recrutements, c'est aussi de montrer le potentiel. Après, je crois que c'était Philippe Pierre qui en parlait, hein, si je me souviens bien dans ton dernier podcast. C'est-à-dire de dire, venez chez nous et le jour où vous partez, voilà les portes qui peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que les gens ils restent 20 ans chez nous. Ça n'existe plus. En plus, les commerciaux, c'est encore plus spéciaux. C'est-à-dire qu'en général, 3-4 ans, c'est logique. On fait 3-4 ans, on évolue, on part ailleurs. Mais c'est aussi de l'ouvrir dès le départ. C'est-à-dire de dire, écoutez, venez chez nous. Nous, on va vous apporter ça, on va vous former, on va vous donner une évolution de carrière, et à un moment donné, vous allez vouloir partir. Voilà les portes qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on va vous former pour pouvoir aller ouvrir ces portes qui sont, voilà, qui sont des portes qui sont toujours intéressantes pour tout le monde. Et c'est un peu comme ça que je voudrais un petit peu faire évoluer les choses. Et ça part d'un fait, c'est-à-dire, voilà, on trouve pas les candidats qui nous satisfont. Ils existent, c'est-à-dire qu'on peut trouver, mais il va falloir faire une adaptation interne et externe pour pouvoir arriver au meilleur résultat.
C'est vrai que moi, c'est un truc que je constate aussi, c'est de plus en plus difficile de trouver des candidats qui acceptent des grands secteurs et des déplacements permanents, etc., etc. Alors, on en trouve toujours, mais c'est plus compliqué. Et puis, il y a plus de risques liés à ça.
Bien sûr.
Et donc, il y a aussi en interne probablement une réflexion à mener sur ce phénomène. Si on parle un petit peu de rituel de management, on a parlé pas mal de recrutement, mais rapidement avant d'aller vers la fin, qu'est-ce que tu mets en place? Alors, j'ai bien aimé ton truc que tu t'envoies tous les 3 mois en disant, bon, ça c'est perso, c'est-à-dire c'est à toi en tant que manager ou chef d'entreprise, mais j'irais les rituels de management que tu mets en place pour justement éviter que tes équipes, bon, garder la cohésion des équipes, mais aussi, tu es quand même dans un milieu où ça évolue vite, etc., etc. Et qu'est-ce qui tient la baraque, en fait, en termes de rituels de management?
Alors, le 1 à 1, c'est vraiment c'est le ciment. Et ça c'était la clé. C'est assez intéressant, hein, ce 1 à 1, parce que quand je le faisais déjà, on en avait parlé, hein, je le faisais déjà dans ma compagnie précédente, mais de façon très différente. Je le faisais beaucoup plus sur, c'était moi qui drivais les choses, et c'était ouais. Plus, OK, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça ne marche pas? OK, pourquoi pas ça, mais... Et donc là, on a créé Edera, je me suis dit, OK, je veux faire les choses différemment, je veux vraiment avoir la performance maximum. Puis j'étais tombé sur ton podcast, puis commencé à écouter, me dire, tiens, c'est intéressant la façon de voir les choses. Et donc vraiment, c'est de mettre en place, que j'ai un peu modifié le 1-1, je l'ai fait un peu à ma sauce, c'est-à-dire que c'est 30 minutes, effectivement, toutes les semaines. J'essaye de jamais le rater. Alors, il peut se déplacer dans la semaine, parce que bon, des fois, on a des impératifs, mais surtout, le faire. Trouver toujours un moment pour son collaborateur, c'est essentiel. Et donc, aujourd'hui, c'est quatre parties sur 30 minutes. Alors, il y en a avec qui les quatre parties se font très vite, puis il y en a, on ne passe jamais la deuxième. Hein, donc, c'est toujours très rigolo aussi. Et donc, la première partie, c'est vraiment toujours, c'est comme tu l'avais présenté, hein, c'est « OK, comment vas-tu » Et là, c'est « Tu me racontes ce que tu veux ». Et ça dépend vraiment des personnes. Les personnes qui vont partir de tout, que ce soit compagnie, en dehors de la compagnie ou autre. Il y en a qui vont être très, très, très performance. Voilà, voilà ce que j'ai fait, tac, 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 tac. Mais ça évolue au fur et à mesure du temps. La deuxième partie, c'est toujours les feedbacks. Et ça, je sais que c'est une partie qui est très appréciée. En tout cas, je l'entends souvent, puisque dans la partie... dans cette partie-là, voilà, toujours demander est-ce que tu es prêt à recevoir un feedback. Il n'y a pas toujours des feedbacks, mais quand il y en a. Troisième partie chez nous, c'est tout ce que tu garderais, tout ce que tu enlèverais, tout ce que tu améliorerais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui que tu voudrais amener? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait que tu voudrais arrêter parce que tu ne vois pas l'intérêt? Ou est-ce quelque chose que tu penses qu'on devrait garder, améliorer? Donc voilà, c'est toutes ces réflexions. Donc ça, c'est des points qui sont importants parce que ça permet aussi de voir s'il y a des alignements. Et des fois, on a deux, trois personnes qui me disent à peu près la même chose. Je me dis, ah tiens, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et la quatrième partie que je vais changer, mais qui a été pendant un certain temps, qu'est-ce que tu as appris? Je trouvais que c'était important de garder parce que j'encourage mes collaborateurs de garder une heure ou deux dans la semaine, ils bloquent. Et puis là, tu lis, tu t'écoutes des podcasts, tu fais ce que tu veux, mais quelque chose qui va te permettre de te sortir un petit peu de ton train-train quotidien et de passer à une étape supérieure. Ça, je voudrais le changer par tes victoires. Donc, j'aimerais rajouter, voilà, quelle a été ta petite victoire de la semaine, grande victoire. Il n'y en aura pas toujours.
Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est plus opérationnel, c'est plus concret. Après, ce que tu as appris, alors après, ça dépend toujours du contexte de l'entreprise. Ce que tu as appris, c'est important de se le poser au moins une fois par période d'évaluation. Ouais. Tu vois, par exemple, si tu fais des évaluations tous les 90 jours, c'est vraiment une question à poser. Après, toutes les semaines, oui, on apprend des choses toutes les semaines, mais est-ce qu'il faut forcer? Souvent, on a besoin d'un petit peu de recul sur ce qu'on a appris. Alors que les victoires qu'on a eues, bon, bah, on les a eues, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est très dynamisant de donner l'opportunité à ton collaborateur d'en parler.
Ouais. Et c'est devenu comparé au 1-1 que je faisais dans le passé, c'est devenu un plaisir. C'est-à-dire que c'est pas, allez, on va revoir les performances, les métriques, les machins. Ça, c'est pas, c'est, ça, mais ça, ça, à la limite, au contraire, et ça, tu verras avec les collaborateurs avec qui tu vas parler. Par contre, à côté, ça veut dire qu'il faut que tu sois béton sur tout ce qui est métriques, tu sais tout, tout est analysé, mais ça, tu y as accès. Donc, tu n'as pas besoin d'en discuter pendant le 1-1. Ça, c'est des métriques qui sont analysées, qui sont digérées pour toi, tu peux regarder. Mais par contre, ce moment-là, c'est vraiment un moment où tu construis quelque chose parce que, j'aime bien le mot collaborateur, c'est pas tu bosses pour moi, quoi. On bosse ensemble, donc j'ai besoin de te comprendre. Si je ne te comprends pas, je pourrais pas t'aider à grandir. C'est pas possible.
Et alors, je dirais que les métriques et les réalisations factuelles, etc., tu as deux autres outils. Tu as la réunion d'équipe où on peut regarder les métriques en équipe, je veux dire, ça ne gêne pas. Et puis après, les avancements et je dirais la partie un peu plus qu'est-ce que tu as fait cette semaine, patati patata. Tu peux les faire à travers l'outil 15-5 qui est un petit rapport que tu demandes à tes collaborateurs chaque semaine où ils te disent ce qu'ils ont fait dans la semaine, là où ils sont bloqués et ce qu'ils feront la semaine prochaine. Du coup, quand tu fais ce petit outil, bah, du coup, le 1 à 1, il redevient quelque chose de plus. Voilà, on est deux humains là en face de l'autre et voilà, et on parle pas forcément de chiffres, on peut en parler, tu le disais tout à l'heure, mais surtout, on fait ce que font deux humains, c'est-à-dire qu'on discute, on explique nos difficultés, ce qu'on a vécu, etc. etc. Je suis d'accord.
Et ce que j'aime bien dans le 1 à 1, c'était vraiment cet aspect, tu en avais parlé, hein, cette standardisation. C'est-à-dire que tu veux donner le même temps à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire, voilà, c'est cadré de la même façon. Je vais prendre mes notes de la même manière. Je vais faire. Voilà, donc, je te donne le même temps. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un qui parle plus fort ou parce qu'il y en a un qui a des problèmes. Et ça, c'est souvent ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu as une collaboratrice qui arrive, qui a plus de problèmes que les autres, et ben, tu vas passer plus de temps avec elle ou avec une autre. Ben non, elle n'a pas de problème, et puis elle est un peu plus discrète, donc tu la verras jamais. Donc, c'est vraiment comment je vous donne tous le même temps.
Le risque, il est là. C'est que si tu donnes beaucoup, beaucoup de temps à une personne dans ton équipe, tu risques d'en donner moins aux autres. Après, ponctuellement, donc le truc standard, c'est une demi-heure par semaine. Après, si ponctuellement, vraiment, quelqu'un a besoin que tu passes du temps avec elle ou avec lui, tu peux le Bien faire sûr. En plus. Mais tu n'oublies pas les autres, puisque c'est ritualisé. Il y a un truc qui est ritualisé, pas l'autre.
C'est ça.
Quelqu'un qui a des problèmes, heureusement, tout le monde n'a pas des problèmes chaque semaine.
Heureusement.
Heureusement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les rituels de management que tu voudrais évoquer?
C'est vraiment garder, alors pas la porte ouverte, parce que celle-là, moi, ma porte, elle est souvent fermée, parce que voilà, quand je suis pas forcément envie d'avoir être dérangé tout le temps, mais c'est vraiment de faire ces petits checks réguliers. C'est-à-dire qu'on a ces 30 minutes, mais ça veut dire que c'est pas que ces 30 minutes. Ça, 30 minutes, c'est vraiment un truc ensemble. C'est de garder aussi cette dynamique d'équipe. Donc, tu l'as dit, l'équipe, tu as l'équipe étendue, hein, tous les commerciaux, voilà ce qu'on fait, voilà les métriques et tout. Mais c'est aussi garder un noyau un petit peu plus proche de moi, c'est-à-dire que d'avoir régulièrement prendre le pouls de l'équipe. Et c'est pas prendre le pouls. Donc, c'est-à-dire que des fois, des réunions, il s'avère que sur celui-là, il n'y a pas d'agenda. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'agenda. C'est-à-dire qu'on se réunit et en gros, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est assez intéressant parce qu'il se passe souvent des choses. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, cette réunion. Et souvent, les gens en ressortent contents. C'est-à-dire, on a bien fait parce que ah, là, je pataugeais et là, j'ai pu comprendre effectivement ce que tu fais et hop, ça avance. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi à un niveau petite équipe rapprochée.
Et toi, tes équipes, elles sont toutes en présentiel ou…
Non.
Ouais.
Non.
Parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est particulièrement, je pense, utile quand les gens sont un petit peu éclatés partout. Parce que sinon, ça peut se faire naturellement quand on travaille dans le même lieu.
Oui.
On va manger ensemble, voilà, etc. Et si on ne le recrée pas effectivement artificiellement, ça peut manquer, en effet.
Alors, je suis d'accord avec toi, la partie vraiment en présentiel, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que maintenant, c'est tout le monde assez naturel. On a des gens qui sont un peu dispatchés partout. Construire une culture d'entreprise avec des gens un peu partout, c'est pas facile. C'est pas simple. Et on le voit, hein. Moi, j'ai trois collaborateurs qui sont sur site et une qui est en France, donc qui participe souvent aux réunions à distance. Et elle me le dit souvent. On sent qu'il y a une distance, je ne suis pas exactement dedans. Et ça, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est comment on fait en sorte que tout le monde se sente impliqué. Et ce n'est pas simple de le faire correctement. Je t'avoue que je n'ai pas encore la clé exactement pour faire en sorte que tout le monde se sente faisant partie de cet élan et pas juste des petits satellites un peu à gauche à droite qui font partie de l'aventure, mais qui ne se sentent pas faisant partie de ce cœur.
Ça peut être un autre processus, ça peut être celui qui est décrit dans une autre formation qui s'appelle management par objectif, où tu as un rythme en 90, 30 et la semaine. Et c'est à travers, ça peut être à travers ces rituels-là que tu retrouves ça. Mais le truc dont tu parlais, là, l'histoire de dire, ça peut aussi être une espèce de… Tu vois, tu dis la politique de la porte ouverte, moi je pense que c'est une grave erreur quand elle est en permanence. Par contre, tu peux réserver par exemple 2 heures dans ta semaine, toi en tant que chef d'entreprise, en disant voilà, pendant 2 heures je suis connecté, je parle avec qui veut. Ça peut être, Ça peut se transformer en ce... Et ce n'est pas forcément toutes les semaines. Ça peut être une heure tous les mois. Et là, vient qui veut. Tu vois, moi, j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était pas mal. Par contre, c'est ritualisé et ça a des limites. Ce n'est pas la porte ouverte permanente, tous les jours, open bar. Sinon, tu perds tous tes rituels quand tu fais ça.
On des notes, tiens.
OK. Écoute, on arrive... à la fin de cette interview, je te remercie beaucoup. Hein. Le but, c'était d'avoir ton témoignage et ton retour sur la méthode RDE, recruteur d'élite. Et pour finir, les trois questions classiques que tout le monde pose, est-ce que tu as trois best practices, trois outils que tu aimerais bien ou trois conseils que tu aimerais bien partager aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent?
Bon, ça va être assez bateau, hein, mais ne recrutez pas si vous n'avez pas trouvé la bonne personne.
C'est bateau, mais c'est ultra important. Ultra important.
Ouais. Non,
Il n'y a rien de pire que de faire rentrer le mauvais candidat.
Oui, et c'est mauvais pour le candidat aussi. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est traumatique des deux côtés. C'est-à-dire que c'est aussi penser à la personne qu'on va faire entrer. Et finalement, c'est s'en séparer, c'est pas fun. Enfin, c'est fun pour personne. Donc, voilà. Donc ça, je dirais surtout à faire attention. Je dirais vraiment les 1-1, mais des 1-1 structurés et à l'écoute. Et c'est pas... je suis sur mes emails ou c'est important d'ailleurs parce que j'avais eu cette question récemment d'un collaborateur qui disait ah moi j'arrive pas trop à lire tes notes j'aimerais bien que tu les tapes. Je dis ok j'essaye et après je suis reparti parce que ça a changé la relation, c'est-à-dire que j'écris, je suis pas sur mes emails, je suis pas sur quoi que ce soit, je suis avec toi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que la personne sente qu'on est là. Parce que si on n'est pas là, à la limite, il vaut mieux dire, écoute, là, aujourd'hui, je ne suis pas dedans. On fait ça demain. Donc ça, pour moi, c'est... Et ne pas rater. C'est-à-dire que 1-1, c'est un truc, c'est un rituel. Il faut le faire, c'est important. Et la dernière chose, c'est vraiment, à partir du moment où on a embauché ces gens-là, alors je suis tout à fait d'accord avec Philippe Pierre qui disait, il faut d'abord qu'ils démontrent de quoi ils sont capables, ça c'est très important, mais leur faire confiance, et c'est très important, c'est-à-dire qu'on les a embauchés, on doit leur faire confiance pour aussi nous dire que bah là on s'est planté, ou alors je ne suis pas d'accord et j'ai envie de le dire, laissez-les faire, faites leur confiance et arrêtons de penser qu'on sait tout faire, surtout pas, on ne sait pas tout faire, et on s'épuise à ces espèces de management, excuse-moi de l'expression, à la con. Hein, c'est vraiment, je sais tout faire, mais non, mais tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. C'est épuisant et c'est inefficace. Donc, on embauche des gens qui sont bons et cette combinaison à travailler avec eux. Par contre, la différence, c'est que le manager a cette visibilité que les autres n'ont pas, qui est une visibilité beaucoup plus large. Donc, on peut prendre des éléments à gauche, à droite et les mettre ensemble. Donc, faites confiance à vos équipes. C'est important, mais vous ne pouvez pas leur faire confiance si vous n'avez pas embauché les bonnes personnes. Donc,
Exactement ce que j'allais dire. Donc, en boucle, voilà, il faut qu'à la base, vous fassiez monter les bonnes personnes dans le bus. Et pour ça, il faut un processus. Je pense que c'est fini de recruter sans processus. Il faut un processus et un processus qui démarre très en amont. Souvent, quand on donne du conseil en recrutement, on dit soignez l'onboarding. L'onboarding, c'est très, très important. Et c'est vrai. Sauf que moi, je pense que l'onboarding, il commence avant le recrutement. Ça, c'est vraiment important. Et avoir un processus qui guide tout le monde à travers ça, ça vraiment, 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 ça réduit le risque d'erreur. Je le répète, ce que vous puissiez faire de pire, c'est faire monter la mauvaise personne dans le bus. C'est ce qui coûte le plus cher à l'équipe. C'est ce qui coûte le plus cher à l'entreprise. Ouais. En tout cas, Damien, merci infiniment pour ton témoignage. Alors, on l'a évoqué un petit peu pendant le podcast, mais je le redis, ce qu'a proposé Damien, c'est que je rencontre deux de ses collaborateurs qui ont été recrutés selon la méthode recruteur d'élite. Et puis, on va les écouter, on va leur demander ce qu'ils ont pensé de ce process de recrutement. Et puis, on va leur demander aussi ce qu'ils pensent du management qui est pratiqué dans ton entreprise. Je trouve que c'est toujours intéressant et je te remercie en tout cas d'avoir proposé ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est une grande preuve de transparence. On verra bien ce qu'ils ont.
On verra bien. Voilà. Il y a pas de script. Hein, là. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Moi, j'ai pas de script non plus. Donc, je vais découvrir. Ça durera peut-être 10 minutes. Ça durera peut-être une heure. On verra. Peu importe. En tout cas, on s'est bloqué un créneau. On va enregistrer ça demain. Ça sera peut-être pas diffusé tout à fait en même temps que ce podcast-ci. Mais en tout cas, on va le faire.
Super.
Je te remercie infiniment.
C'est moi qui te remercie.
Et puis, je souhaite un formidable, formidable développement à tes équipes. J'espère qu'on entendra parler d'Edera DX rapidement, puisque je ne me souviens plus si on l'a dit d'ailleurs. Le but de ta boîte, c'est de développer une technologie pour la détection des cancers.
Hein. Alors, c'est effectivement, on travaille sur le cancer et c'est pour aider les instituts hospitaliers à pouvoir mieux traiter, diagnostiquer les cancers.
Voilà, donc on a vraiment envie que tu réussisses.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Salut. Cédric. Merci. Ciao.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Très bientôt, j'aurai cette conversation avec les collaborateurs de Damien. J'espère aussi que la conversation a été pour toi l'occasion de recueillir quelques pépites sur le recrutement ou en tout cas de te convaincre que le recrutement, c'était vraiment quelque chose que tu ne pouvais pas laisser au hasard et qu'il était très important d'avoir un processus. Je sais aussi qu'au cours d'une conversation, ça part un peu dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait, je te le disais en introduction du podcast, c'est une série de mails qui s'appelle Recruter sans te tromper, que tu peux recevoir dans ta boîte mail. Pour ça, il suffit soit déjà d'être abonné au mail privé, ou si tu n'es pas encore abonné, ou si tu écoutes ce podcast, je dirais pas à sa date de sortie, eh bien tu peux accéder à cette série simplement en suivant le mail que j'ai mis en descriptif du podcast qui va te permettre de recevoir la série dans ton mail. Il suffit pour ça que tu me laisses ton prénom, ton nom et ton meilleur mail et c'est parti, tu recevras mes principes pour un recrutement réussi. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux quand un épisode vous plaît à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.